France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Weekend. Et ce matin, à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de David Bowie, le plaisir dingue d'écouter sa musique, ou plutôt ses musiques, car à chacun son Bowie, comme l'écrit si bien Eric Fotorino dans son édito de la revue Légende. David Bowie, l'alien inclassable de Ziggy Stardust à ses années berlinoises, en passant par la soul funk américaine. Pourquoi sa musique révolutionnaire ne cesse de nous envoûter? Pour nous éclairer ce matin, les journalistes Julien Bisson et Mishka Assayas. Et vous, dites-nous sur l'appli Radio France pourquoi vous aimez écouter David Bowie et à quel souvenir précis de votre vie sa musique fait écho. Je les imagine se déhancher sur du Bowie dans une boîte de nuit branchée de la capitale, Guillemette Odissino qui opine du chef et Thibaut de Saint-Maurice qui se demande voilà. Bonjour Thibaut, chercheur en philosophie, quel est le menu de votre punchline philo, l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire de la pensée?
Eh bien, 15 jours après Noël, Dieu est mort.
Voilà. Allez.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma Télérama, quelle est votre ordonnance de cinéthérapie?
Eh bien écoutez, puisque Dieu est mort, mais que Bowie, lui, ne sera jamais mort et qu'en plus il avait une dentition particulière, je pense que je vais vous parler d'éternité et de vampires.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Mais Vous Fasse Weekend, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Si vous prenez le temps de lire les textes que j'ai écrits depuis 35 ans, j'aborde quasiment toujours les mêmes thèmes. Seul le traitement diffère. Je reviens toujours sur la recherche spirituelle, sur le sentiment de solitude, d'abandon. Finalement, je ne me suis focalisé que sur peu de sujets. Je pense
que peut-être les gens lisent trop peu into me. Vous savez, je suis un working.
Je pense que les gens essayent de voir trop profondément en moi. Je ne suis qu'un artiste qui travaille. Peut-être ai-je une approche particulière de mon travail. Peut-être seul mon travail est intéressant. Je ne suis que moi. Je laisse entendre que mon travail a un réel intérêt. C'est peut-être pourquoi j'ai toujours un public qui me suit. Je ne pense pas que je les intéresse. C'est mon travail qui les intéresse. Voilà pourquoi je suis un artiste.
But it's the last show that we'll ever do. Thank you. Time takes a cigarette.
David Bowie au micro de Jean-Luc Hess sur France Inter en 2003. On reviendra tout à l'heure sur les thèmes de prédilection de Bowie, la solitude, l'abandon ou encore la recherche spirituelle. Bonjour Mishka Assayas.
Bonjour Ali Rebéi.
Ravi de vous accueillir à nouveau. Vous êtes écrivain, journaliste, producteur de Very Good Trip du lundi au jeudi à 21h sur France Inter. Et demain, vous proposerez une masterclass à 20h, de 20h à 22h, une masterclass consacrée à David Bowie. Et on peut lire chez France Inter, aux éditions France Inter, Very Good Bowie Trip. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Directeur des rédactions du 1 Hebdo, du 1 des libraires et de la revue Légende. Un numéro somptueux qui vient de sortir en kiosque, n'est-ce pas Guillemette?
Ah oui.
On a envie de l'afficher, ce numéro, David Bowie, 10 ans après, un numéro collector. Alors Mishka Assayas, alors c'est assez dingue, mais pendant longtemps, vous avez vécu sans apprécier David Bowie. Pourquoi vous a-t-il longtemps laissé sceptique? Qu'est-ce qui vous agaçait chez lui?
Alors, c'est un peu exagéré de dire
Vous l'écrivez dans votre livre. Hein.
Oui, non, mais c'est-à-dire que j'ai essayé, vous savez, tous les gens qui font profession de parler de rock, d'écrire sur le rock, c'est comme s'ils avaient tout compris, tout capté, etc. Alors, moi, je raconte la vérité, c'est-à-dire que j'étais un gamin, je trouvais que Bowie était trop théâtral, trop maniéré, qu'il était, d'ailleurs ce qu'il était en partie, et il l'a revendiqué, un comédien qui se mettait dans la peau d'un chanteur de rock. C'était Ziggy Stardust, c'était presque un côté comédie musicale. Donc, je trouvais qu'il en faisait trop, je trouvais que sa voix était trop théâtrale, trop emphatique, enfin j'avais comme on dit bêtement, des réserves, c'est complètement stupide, parce qu'en fait c'est un génie, mais ça j'ai mis du temps à le comprendre.
Et sa musique ne vous touchait pas?
Ben, je trouvais qu'il y avait trop de distance, mais après j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était précisément dans cette distance qu'il y avait quelque chose de profond qui se jouait. Et voilà, c'est d'ailleurs, j'ai beaucoup approfondi le sujet, j'avais toute une série en été 2023 sur lui, qui est devenue un livre dont vous avez eu la gentillesse de parler, et j'ai approfondi le sujet.
Julien Bisson, vous comprenez que Mishka Assayas ait été longtemps rebuté par la musique de Bowie ?
Oui, je sais pas si je le comprends, mais en tout cas, il y a plein. Il faut prendre du temps pour découvrir Bowie. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien de découvrir Bowie à l'adolescence en écoutant la radio. Et ce qui passait à la radio, c'était principalement Let's Dance, China Girl, des tubes un peu ces tubes des années 80, un peu commerciaux. Et j'ai mis du temps à découvrir toutes les facettes de Bowie. Et c'est en découvrant toutes ces facettes, qui sont nombreuses, on va en parler pendant cette émission, qu'on arrive à voir à la fois la virtuosité et la complexité de son personnage, et ensuite la complexité aussi de sa musique. Parce que si on n'a pas un tout petit peu de culture musicale, c'est compliqué d'arriver à voir ce qu'il va donner, à quoi il va donner naissance. C'est-à-dire que on écoute Bowie aujourd'hui et on connaît tous ses suiveurs, mais on se rend compte en découvrant l'histoire de la musique que sans Bowie, bah, le glam rock n'existe pas. Sans Bowie, il y a une partie du punk qui n'existe pas. Sans Bowie, il y a une partie de l'électro qui n'existe pas. Et que arriver à retracer l'histoire de Bowie, comme on peut le faire dans ce numéro légende, c'est aussi retracer une histoire de la musique.
Dans son édito, Eric Fotorino parle du fait que nous ayons chacun notre David Bowie. C'est quoi votre Bowie préféré?
Alors moi, mon Bowie préféré, je pense que, enfin, c'est pas très original, mais je pense que toute la période Hunky Dory et Ziggy Stardust, c'est véritablement celui celui qui me fascine le plus.
Pourquoi?
En tout cas. Qui me fascine parce que on a l'impression que c'est un extraterrestre. C'est pas un hasard s'il se mimait en extraterrestre. C'est un extraterrestre qui arrive aussi sur la scène musicale. Que avant cela, il y a des immenses artistes, les Stones, les Beatles, les Beach Boys, des immenses artistes qui ont façonné le rock. Et qu'on a l'impression peut-être qu'à ce moment-là, tout a été dit, tout a été fait, et lui arrive et réinvente tout, encore une fois. Et je trouve que ce mélange d'exubérance, de lyrisme, de texte, il faut lire les textes de Bowie, il y a des textes incroyables sur lesquels, moi encore, d'une chanson comme Life on Mars, que j'adore, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, je suis toujours en train de me demander ce qu'il veut dire. Et je ne pense pas parce que je n'arrive pas à le comprendre, mais en tout cas parce qu'il y a tellement de choses qui sont là et qui continuent à nous habiter qu'il faut prendre du temps pour les lire.
Mishka ?
Oui ?
Votre Bowie ?
Ah, je suis là toujours. Moi, c'est la période berlinoise, Low Heroes, qui est absolument captivante. Et d'ailleurs, je peux avoir été insensible à certains aspects de Bowie, là, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire.
Qu'est-ce qui caractérise cette période berlinoise ?
Parce que c'est expérimental. C'est-à-dire qu'il invente une musique qui n'existait pas avant lui. Je dirais que, comme l'a dit très bien Julien, il a recyclé d'une manière géniale ce qui s'était fait avant lui dans la période Ziggy Stardust, Aladdin Sane, etc. Même, à certains égards, la période soul-funk américaine de 75-76, Young Americans et Station to Station. Mais là, c'est vraiment... Il part vers l'inconnu. Il s'associe à Brian Eno. Et puis surtout, il arrête la drogue. C'est quand même le truc le plus important, c'est qu'il arrête la drogue. Et Low, c'est la descente. Et on a dit toujours, ah, Berlin, c'est fascinant, il devait prendre le thé dans des palaces avec des vieilles dames, il devait mener une vie extrêmement glamour. Pas du tout, il habitait au-dessus d'un garage qui vendait des pièces détachées, il prenait son vélo. Berlin-Ouest, c'était très, très, très sommaire à l'époque. Et donc, il est là dans une espèce de nudité, et il invente une musique machinique, à la fois froide et incandescente, qui a quelque chose de captivant. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant dans ces deux albums, il y a Lodger qui vient après, c'est qu'il chante à moitié. C'est-à-dire que la moitié est occupée par des instrumentaux qu'il a fait avec Bowie, et il dit « je n'ai plus rien à dire, je n'existe plus, je ne suis plus une star, je deviens un autre esprit, c'est captivant. »
Qu'il a fait avec Brian Eno.
Oui, exactement.
Guillemette, votre Bowie.
Ah non, alors mon Bowie, c'est pas possible. Parce que justement, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on peut avoir à 18 ans un Bowie, à 32, on en a un autre. Aujourd'hui, je peux à nouveau écouter effectivement Life on Mars en boucle. Il y a quelque chose que je trouve, en fait, c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas devenu ni les Rolling Stones, ni les Beatles. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement nombreux que c'est compliqué. Et je pense que, en fait, pour moi, c'est plus qu'un chanteur, c'est plus qu'un acteur qui fait semblant d'être un chanteur, etc. C'est vraiment l'artiste, mais au sens le plus pur du terme, peut-être le chanteur le plus artiste du monde, parce que justement, il n'est jamais content de ce qu'il est, il se réinvente constamment, il commence quelque chose, il l'arrête, il peut s'arrêter pendant 4 ans de chanter. Enfin, il y a quelque chose de, en fait, d'excessif, mais d'excessif aussi dans une espèce de recherche constante à la fois de pureté, de nouveauté, mais de nouveauté même personnelle. C'est pas un mec qui réinvente simplement ce qu'il fait et son œuvre. C'est lui. Il est mille et un David. Moi, je trouve ça exceptionnel.
Mishka.
Il est en ça extrêmement proche, et ça je m'en suis rendu compte, de Bob Dylan,
oui.
Qui a justement chanté récemment « I contain multitudes », je contiens des multitudes. Et c'est l'artiste dont il est le plus proche à mon sens.
Oui, je suis assez d'accord.
Julien Bisson. Oui, il y a une phrase qu'il dit, c'est pour le concert de ses 50 ans au Madison Square Garden, où il dit « Je ne sais pas où je vais, mais une chose est sûre, on ne va pas s'ennuyer ». Et il y a cette chose avec, voilà, avec Bowie, c'est que, quels que soient les Bowie, et on a une petite représentation graphique où on a tous ces accoutrements, tous ces costumes, dans la revue, où on voit vraiment la façon dont il a pu se réinventer, même d'un point de vue de vestimentaire. Il faut se rappeler que le premier personnage qu'il crée, c'est le personnage de David Bowie. Il ne s'appelle pas David Bowie, tout premier personnage, c'est David Bowie. Et il va continuer à le faire pendant toutes ces années. Et dans les Bowie, moi je mets aussi le Bowie comédien, par exemple, acteur de cinéma ou acteur de théâtre. Et avec des rôles qui sont assez fascinants. Donc il y a vraiment cette volonté de prise de risque permanente et de réinvention qui nous sidère à chaque fois.
Thibaut de Saint-Maurice, votre David Bowie, vous levez les yeux au ciel.
Le mien, il est plus distant. Moi, j'avoue que peut-être comme certains de nos auditeurs ou auditrices, je ne sais pas pourquoi, mais je suis passé à côté, en fait. Je connais très, très, très mal David Bowie. Je connais le nom, je connais peut-être une ou deux chansons. Je suis incapable de citer le nom d'un album ou les dates d'album. Je suis passé un peu à côté, mais ce que vous dites et ce que vous décrivez me donne envie, oui, de découvrir.
Nous allons vous rééduquer ce matin, Thibaut de Saint-Maurice. Alors, David Bowie, de son vrai nom David Jones, il est né à Londres en 1947 et il est mort à New York en 2016, il y a 10 ans exactement. Alors, il a fallu du temps pour connaître les origines familiales et sociales de David Bowie. En 1975, dans le magazine Rolling Stones, il fait cette déclaration. Beaucoup de gens disent, dans ma famille, c'est tous des dingues, sauf que chez moi, ils le sont vraiment, Mishka Assayas.
Ah bah oui, c'est tout à fait fondé, puisque il a donc un demi-frère qui était un fou au sens psychiatrique. Trois de ses tantes maternelles se sont suicidées.
Elles ont été internées dans des asiles.
Dans des asiles, enfin, et lui-même, je dirais que toute sa vie a été une lutte contre la folie.
Qui était la mère et le père de David Bowie?
Alors, son père était un
artiste de music hall.
Alors, oui, ça c'était
enfin, non, il a tenté de se lancer dans le musical.
Oui, c'était son hobby. Son activité professionnelle, c'est qu'il s'occupait d'un bureau de presse d'une association qui s'occupait d'orphelins. Et quant à sa mère, elle avait été mannequin, c'était une ouvreuse qui s'était élevée socialement en rencontrant cet homme. Mais alors, elle avait eu un rapport extrêmement froid et glacial avec son fils. Et c'était très, très pénible.
Qu'est-ce qui reste de ce passé familial dans les thématiques de ces chansons?
La solitude.
Le vide. Ouais. Le vide, la quête. Vous savez, il y a une chose absolument extraordinaire, c'est qu'il a téléphoné quand il était souvent livré à lui-même, tout seul chez lui. Il était enfant, il avait pris le téléphone, il avait téléphoné à un hôpital pour dire « je vais mourir, il faut que vous veniez vous occuper de moi ».
Il faut se mettre aussi dans ce contexte, c'est l'Angleterre, vous l'avez dit, il est né en 1947, c'est l'Angleterre de l'immédiate après-guerre, l'Angleterre est particulièrement marquée par les dégâts de la guerre, et lui grandit dans cette banlieue londonienne, grisâtre, et il va être profondément aussi marqué par ça, par ces décors-là, et on publie nous un entretien avec Pete Doherty, où Pete Doherty revient justement sur cette enfance-là, et cette idée que lui, et avec Mark Bolan par exemple, ils ont aussi souhaité arriver à à sortir totalement de cette grisaille anglaise pour apporter de la couleur, de la joie, de l'exubérance, sortir de cette dimension.
Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que David Bowie, quand il était très jeune, était ce qu'on appelle un mod. Alors les mods, c'était, ils s'opposaient aux rockers comme les Rolling Stones, dans le sens où ils ne cherchaient pas à être des beatniks mal lavés, mal peignés, sauvages, inquiétants. Au contraire, c'était des prolétaires qui voulaient ressembler à des aristocrates oisifs. C'est-à-dire que...
Bah, des dandys, oui. Ouais,
des dandys, c'est-à-dire qu'ils allaient chez des tailleurs, etc. Et on voit les photos de ces jeunes groupes de l'époque, les Small Faces, tout ça, et ils sont tirés à quatre épingles, et David Bowie et son copain Mark Bolan étaient des mods.
Julien Bisson, pourquoi ça vous fait du bien, on est dans Grand Main Vous Fasse, hein, d'écouter la musique de David Bowie?
Mais je trouve qu'il y a plusieurs façons de se faire du bien en écoutant Bowie. On a dit, il y a beaucoup de Bowie, il y a beaucoup de façons de l'approcher différentes. Et selon notre humeur du moment, il y a plein de chansons qui sont là pour pouvoir nous plaire. Il y a dans des moments où on a envie d'être un peu dans une joie exubérante. Si en partant, par exemple, au bureau le matin, vous avez envie d'être quelque chose de très entraînant, bah, écoutez Modern Love, écoutez Suffragette City, ça va être quelque chose qui va venir réveiller en vous cette joie-là. Et puis, si vous avez envie d'être plutôt dans quelque chose d'un peu plus lyrique, d'un peu plus introspectif, quelque chose qui vient déchirer quelque chose en vous, ou en tout cas faire vibrer cette corde-là, bah, écoutez Life on Mars, écoutez même Space Oddity, il y a quelque chose de très
bah tiens,
de
Space très Oddity, déchirant. C'est pour vous.
Ouais, Space Oddity, c'est...
Oui, alors c'est le premier grand tube de David Bowie, même le seul vrai tube des années 60.
En 1969.
Bowie. 69, on est dans la suite de l'aventure lunaire, et donc il y a une forme de fascination pour l'espace aussi qui va faire en sorte que ça...
Elle vous touche particulièrement, cette chanson?
Alors cette chanson, elle me touche aussi particulièrement parce que, pour la petite histoire, c'était celle que j'ai beaucoup fait écouter à mon fils quand il avait 3-4 ans, et c'est la première musique à laquelle il a vraiment réagi. La musique, mais aussi le clip. Il faut revoir le clip de Bowie, qui, je crois, est tourné en 70-71, où il est avec ses cheveux rouges, où il y a des formes stroboscopiques, et il me disait, mon fils, à 3-4 ans, qu'il était l'espèce de moment où la fusée décolle. Là, à ce moment-là, justement, il y a quelque chose qui explose dans la chanson et qui apporte une... C'est comme s'il y a quelque chose qui se déchirait dans l'espace-temps.
Guillemette ?
Oui, mais en plus, ce qui est magnifique, on parlait du Bowie qui se réinvente, etc. Il se répondait aussi de chanson en chanson. Parce que Space Oddity, il y a la réponse avec Ashes to Ashes, où, en fait, ben, les astronautes, vous voyez, ben, en fait, ça devient un petit peu... En fait, après, il nous explique dans une chanson que les astronautes, en fait, sont des junkies, qu'ils ont rêvé de la Lune, mais qu'en fait, tout ça était faux, et qu'on va tous redevenir des cendres. Donc, mais en fait, et il se répond comme ça. Y a Ashes to Ashes aussi est une chanson complètement à la fois planante et flippante de ouf, qui est une merveille, quoi. Quand on est ado, Ashes to Ashes, c'est la base.
Mishka.
La question, c'est quoi, Ali?
Non, c'est juste, on revient sur Space Oddity.
Ah, alors Space Oddity. Eh bien, alors, je vais appeler la liste. Oui, c'est pas facile.
C'est pas facile à cette heure-là, il faut le dire à nos auditeurs. 10h24, c'est pas votre horaire préféré.
Non, mais c'est... Arrêtez. Non, c'est un peu l'historien casse-pied qui va intervenir là. Non, mais c'est que Space Oddity, en fait, a été un tube éphémère. C'est-à-dire qu'il a eu en 69 et il a disparu. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était, vous savez, ces gens qui font des tubes sans lendemain, et il a fallu 2 ans avant que Bowie ne s'impose vraiment, parce que personne ne le prenait au sérieux. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je disais au début, c'est que pendant quelque temps, on l'a pas totalement pris au sérieux. C'est-à-dire qu'il était, il y avait un côté outrancier, très costumé, et d'ailleurs, quand il a fait Starman, c'est ça qui a fait découvrir à tout un public de jeunes Britanniques en 72, Top of the Pops, c'était un excentrique, c'était un dingue, c'était un rigolo, on savait pas s'il resterait.
Allez, il est 10h25, il est temps de retrouver la cinéthérapie de Guillemette Odissino.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Alors, cher Ali, On voudrait se souhaiter un avenir Bowie comme Bowie. On voudrait danser Let's Dance toutes les nuits comme des Cat People et oublier, je venais de le dire, que les Major Tom de Space Oddity deviennent des junkies et que, Ashes to Ashes, nous retournerons tous à la poussière. On aimerait que certains dirigeants arrêtent de vampiriser le monde, car les vampires, ce qu'ils ont de beau, comme Bowie, c'est pas de planter leurs dentiers dans des territoires qui n'ont rien demandé. Ce qu'ils ont de fascinant, c'est qu'ils parlent d'éternité. Le monde devient exsangue, alors j'ai envie de vous conseiller de l'amour, du sexe, de la musique, du vieux cuir qui craque comme un vinyle de rock et des visages blonds inoubliables. Nous parlons de Bowie, alors parmi sa petite mais incroyable filmographie, il faut que vous le contempliez, se faner dans les bras de Catherine Deneuve. Les Prédateurs de Tony Scott est culte. Alors, pour certains films, ça veut dire souvent qu'il est follement marqué par une époque. Et j'avoue que celui-là n'est pas piqué des hannetons en version années 80 à mourir. Bon, tout y est, hein. L'éclair obscur, l'esthétique clip, les corps nus à travers de jolis voilages, une fin bien gore. Mais Bowie, Deneuve et Suzanne Sarandon au même endroit, comment vous dire, c'est un tel shoot de beauté. Dans les années 80, au cinéma, les vampires n'étaient plus à la mode. Moi, après, c'est revenu sacrément, mais à l'époque, non. Et une des chansons du film, d'ailleurs, le précise. Bela Lugosi is dead. Mais Tony Scott use de ce sujet pour parler de l'obsession du jeunisme et du fantasme de l'amour pour toujours et toujours. Comme le promet Catherine Deneuve, 4000 ans, et sublime comme un bouquet de roses, un David Bowie qui croyait ne jamais la quitter.
Est-ce que ça va être long ? Combien de temps a-t-il fallu aux autres ?
Je ne sais pas.
Tu ne peux pas ne pas te rappeler, Myriam. Je sais qu'il y a longtemps, mais ce n'est pas le genre de choses qu'on oublie. Lolia, il lui a fallu longtemps.
Une semaine. Deux ou trois jours, je ne m'en souviens pas.
Elle ne dormait plus ?
Non, elle se nourrissait, mais elle ne dormait plus.
Et les autres, avant elle ?
Ça s'est toujours passé de la même façon. J'avais prié pour ne pas te perdre.
Cet extrait, Guillemette, me fait penser que Bowie est irremplaçable.
Bah, évidemment. Enfin, vous avez raison, Ali. Et en même temps, je lui ai trouvé une fille ou une cousine avec ce même genre de charisme androgyne hallucinant. Et cela tombe bien, puisque c'est une actrice, Tilda Swinton, qui a rarement été aussi hypnotique que dans le rôle d'une vampire dans Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Alors elle se nomme Eve dans le film et elle retrouve Adam, un musicien qui vit reclus au milieu de sa collection de guitares dans son appartement de Détroit et qui est l'amour de sa vie depuis des siècles et des siècles. Ce sommet de romantisme est perfusé de clins d'œil à la science et à la culture puisque les deux amants vivent depuis assez longtemps pour avoir connu Shakespeare, Schubert, Einstein et le médecin chez lequel ils se fournissent en sang s'appelle le docteur Faust. On y voit une guitare Gibson de 1905, au milieu des violons et des violoncelles. On voudrait être aussi civilisé que ces deux êtres d'exception. Et on est complètement d'accord pour tendre notre jugulaire à ces deux êtres en marge, mais si sages, si cela pouvait les aider à continuer à survivre dans le monde moderne qui s'effondre autour d'eux. Mais que le temps s'arrête. Que vous aimez le rock et l'amour, que vous êtes prêt à être vampirisé par la magie du cinéma, vous ne voudrez plus jamais sortir de ce film, jamais, jamais, en attendant que seuls les amoureux restent en vie et que le monde guérisse.
Docteur Odissino, rappelez-nous votre ordonnance de cinéthérapie.
Alors, Les Prédateurs de Tony Scott et Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch.
Julien Bisson.
Je trouve que c'est super et le fait de parler de vampires, ça se prête particulièrement bien à David Bowie qui a vraiment été ce vampire qui aspirait le sang de tout ce qui pouvait l'inspirer. Et puis c'est aussi cette réflexion sur la monstruosité qui lui-même, on en parlait de tous ses costumes, mais le costume des monstres est aussi un costume qu'il a plusieurs fois endossé. Il a joué, quand il était acteur de théâtre, l'une des grandes pièces qu'il a joué, c'est Elephant Man. Il a joué Elephant Man pendant très longtemps sur les scènes londoniennes. Donc il y a vraiment cette dimension-là sur la monstruosité qui est très intéressante pour lui à creuser.
Et physiquement, ses yeux verrons absolument fascinants. Je le disais tout à l'heure, cette dentition là, avec quand même des canines un peu mal placées, il y a quelque chose quand même. Je suis sûr qu'en fait que David est quelque part.
Et même dans ses films, quand il va faire le roi gobelin dans Labyrinthe, ou quand même quand il fait l'homme qui venait d'ailleurs, c'est là-dessus où il va aussi exprimer ça.
Justement, je pense que c'est le rôle le plus important de sa vie, parce que c'est un rôle avec lequel il s'est confondu. C'est The Man Who Fell to Earth de Nick Rogue, l'homme qui venait d'ailleurs. Il l'a tourné dans le Nouveau-Mexique en 75, à un moment où il allait très 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 mal, c'est-à-dire que vraiment la cocaïne était son quotidien, mais enfin dans des proportions dont on n'a même pas idée, et il a joué le rôle d'un extraterrestre qui était corrompu par la télévision, l'alcool, je ne sais plus quoi d'autre d'ailleurs, et en fait il s'est totalement identifié à ce personnage, en fait un extraterrestre qui cachait son jeu parce qu'il se faisait passer pour un Anglais, voilà, donc, et en fait il a vécu pratiquement un an dans la peau de cet extraterrestre, et d'ailleurs ce sont des photos du film de Nick Rogue, l'homme qui venait d'ailleurs, qui illustrent les albums Station to Station et Low.
Dans quelques instants, les grandes thématiques de l'œuvre de Bowie, la folie, le double, l'abandon. On écoute Starman de Bowie, évidemment, sorti en 1972, 10h32 sur France Inter.
Some man waiting in the sky.
interprété Starman.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand Bien Vous Fasse Weekend, le plaisir d'écouter David Bowie à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort avec le journaliste Mishka Sayas qui se réveille petit à petit dans Grand Bien Vous Fasse.
Quelle réputation vous me faites.
Et Julien Bisson, rédacteur en chef de la revue Légende, qui consacre une magnifique une à David Bowie. Julien Bisson, Starman, c'est l'une de vos chansons préférées. Hein.
Oui, moi, Starman, j'adore. Et puis j'adore revoir cette prestation donc, qu'il fait chez Top of the Pops.
On est l'émission culte de la BBC.
L'émission culte de la BBC. Il faut se mettre dans le contexte. On est le 5 juillet 72 et on a l'impression que la télé en couleur arrive avec Starman parce que il faut les voir arriver sur scène. Il porte un costume vraiment bariolé. On a l'impression que
d'Arlequin,
d'Arlequin. Ouais, vraiment, c'est pour tester les couleurs de la télévision. Et puis aussi cette d'un seul coup, il amène aussi une dimension queer qui apparaît à l'écran. Je pense qu'il est arrivé, il est maquillé, il est androgyne, il a des relations avec ses musiciens qui sont aussi ambigus. Et je pense qu'il amène aussi ça comme nouveauté dans le paysage médiatique audiovisuel. C'est d'un seul coup le fait qu'on peut être queer, on peut être autorisé à être ça, et que ça a pu aussi libérer, à mon avis, un bon paquet d'adolescents.
Mishka Sayas.
Oui, alors c'est très intéressant que vous souligniez ça, parce que il a toujours été ambigu par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il a dit, par exemple, j'ai toujours été gay. C'est totalement faux. Il avait eu que des fiancées. Il a été initié à l'homosexualité par le chorégraphe Lindsay Kemp, qui a vraiment été celui qui lui a donné des éléments pour, parce qu'on parle pas de l'essentiel, qui est la scène. Il a révolutionné l'art de la scène pour le rock. C'est-à-dire qu'avant lui, les chanteurs bougeaient comme ils bougeaient, etc. Lui, il avait fait du mime, il avait assimilé les gestes du kabuki, le maquillage, etc. Donc il y avait tout ça. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, il a utilisé ça comme une provocation. Dire qu'il était gay et bisexuel, faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'au Royaume-Uni, dans ces années-là, l'homosexualité était un délit. C'est-à-dire que les gens allaient, si c'était public, ils allaient en prison, etc. Et en plus, lui, ce qui est fou, c'est qu'il disait aussi que l'homosexualité, ce qui est une chose absolument scandaleuse aujourd'hui, était une forme de décadence et de dépravation. Et il a dit une chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'il a dit, oui, alors Lou Reed et moi, ou Iggy et moi, enfin, il parlait de Lou Reed et lui, nous sommes les têtes de pont d'un certain mouvement de libération dans la société, mais si on va au bout de ce mouvement de libération, ça ne donnera rien de bon. Voilà.
Et c'est vrai que David Bowie, vous le disiez, est devenu une icône queer. Queer, alors je rappelle que ça veut dire personne dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant. Et dans Légende, la journaliste Françoise-Marie Santucci écrit ceci. Oui, heureusement, il y avait Bowie. De 1967 à sa mort, il continue d'ouvrir une voie, celle de la fin de la honte, ou simplement celle de la possibilité d'être soi.
Oui, il suffit de revoir la pochette d'un disque comme The Man Who Sold the World, où il est en robe de femme, et c'est pas simplement d'ailleurs pour ce disque. On a des photos où on le voit avec son épouse, Angie.
Angie, oui.
Ils sont en train de promener le berceau de leur enfant.
Oui.
C'est lui qui porte une grande robe et un grand chapeau. Il faut regarder de près la photo pour comprendre qui est le père. Alors, et qui est la mère dans cette photo.
En fait, il allait plus loin que les autres, mais il faut savoir aussi que c'était dans l'air. C'est-à-dire que vous aviez Mark Bolan qui était très féminin aussi. Vous aviez Roxy Music. Au début, ils étaient tous en tenue un peu de travesti presque.
Oh, Brian Ferry. Oh là là.
Ouais, Brian Eno, il portait un gilet en fausse fourrure sur un torse nu. Il avait des paillettes, etc. Donc Mick Jagger aussi à l'époque était très féminin. Donc c'était. Mais lui allait plus loin. Il poussait le truc un cran plus loin. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est côté théâtre de la cruauté. C'était Antonin Artaud qui parlait de ça. C'est-à-dire, il avait été initié à ça, c'est que en fait il n'y a pas de différence entre la scène et la vraie vie. C'est-à-dire que effectivement cette photo, il pousse un landau, il est en femme, il est allé comme ça aux États-Unis en 1971. Il y a quelqu'un qui a voulu le descendre au Texas quand il l'a vu comme ça. Donc il avait un courage personnel extraordinaire. Et ça c'est le dandisme au sens noble du terme.
« Julien Bisson, j'aimerais qu'on s'attarde sur un thème récurrent de la musique de Bowie, c'est le thème du double. C'est donc au début des années 1970 que David Bowie interprète le personnage fictif de Ziggy Stardust, super rockstar décadente et dépravée, avec ses costumes excentriques et son maquillage outrancier. C'est ce personnage qui a fait de Bowie une superstar. Comment expliquer cette fascination pour la transformation ?
Ben, je pense qu'il y a déjà une forme de volonté de se départir de lui-même. C'est toujours la même chose chez beaucoup d'artistes, mais c'est encore plus poussé chez lui. Et puis une volonté d'exploration de la richesse de l'expression artistique et la richesse de toutes les identités qu'il pouvait endosser. Ziggy Stardust est sans doute celui qui est resté le plus célèbre et le plus, alors même que finalement c'est un personnage très très furtif dans sa vie. Il apparaît en 72 et il va lui dire au revoir dans un concert très 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 marquant dans lequel il annonce la mort de Ziggy Stardust. Ça dure un an ou deux, pas beaucoup plus. Mais c'est un personnage dans lequel il va beaucoup marquer parce qu'il va raffiner en effet tout ce que Mishka a dit tout à l'heure sur ce qu'il a appris auprès de Lindsay Kemp. Donc Lindsay Kemp, c'est ce grand mime de l'Angleterre des années 60-70 auprès duquel Bowie va apprendre à maîtriser le mime. C'est pas simplement raconter une histoire, c'est pas la pantomime, c'est surtout maîtriser des gestes, maîtriser une façon de pouvoir utiliser son corps de façon différente. Il va aussi l'initier en effet au kabuki, aller à la culture japonaise, qui va lui permettre, vous savez, ce maquillage de Aladdin Sen. Donc Aladdin Sen, c'est le maquillage dans lequel il a ce fameux éclair qui lui traverse le visage, c'est ce visage très blanc et avec simplement cet éclair qui lui traverse le visage, qui est vraiment inspiré de la façon dont les acteurs du kabuki pouvaient aussi se travestir. Il va mélanger un peu tous ces différents éléments, la culture cabaret également, pour réussir à créer ces doubles. Et on a évidemment Ziggy Stardust, mais il va y en avoir de nombreux autres qui vont ensuite le suivre jusqu'à sa mort, jusqu'à Button Eyes, qui est le tout dernier qu'il va créer.
Mishka Sayas.
Oui, ce qui est aussi très important chez Bowie, c'est, je dirais, une forme de déchirement entre l'apparence et la voix. C'est-à-dire que vous avez une manière de chanter chez Bowie qui n'est pas celle du rock. C'est-à-dire que vous avez, en fait, au début, l'influence chez lui de Jacques Brel, de Scott Walker, qui était un crooner américain qui avait fait carrière à Londres, et vous avez cette voix, effectivement, théâtrale, très lyrique, très, très distante, et qui se greffe à ce glam rock qui était en effervescence autour de lui.
C'est quoi le glam rock, pour ceux qui ne connaissent pas ce mouvement ?
Bah, c'est ce qu'on a appelé chez nous le rock à paillettes, c'est-à-dire que c'était un retour à un rock'n'roll un peu enfantin, un peu simple, avec des costumes outranciers, et quelque chose de très joyeux qui était en net contraste avec le sérieux de Pink Floyd, choses comme ça.
David Bowie raconte avoir créé tous ses doubles pour vaincre une timidité handicapante.
Oui, c'est fou à imaginer de se penser qu'il pouvait être timide, parce que on a l'impression au contraire qu'il avait une forme d'exubérance et d'assurance dans sa capacité à endosser tous ses costumes. Mais c'est sans doute propre, justement, alors là encore, à de nombreux artistes d'arriver à transcender leur maladie par l'expression artistique.
Heroes, c'est sans doute l'une des plus belles chansons de Bowie, l'une de celles qui m'émeut le plus. Guillemette Odissino.
Oui, moi ce qui me frappe là, c'est qu'il y a une voix incroyablement grave. Il y a quelque chose d'incroyablement, sensuel, mais très très comme ça, à bas bruit. Alors qu'il y a d'autres chansons qui sont beaucoup plus dans les aigus, etc. Moi franchement, on l'a pas encore vraiment dit à quel point la voix de Bowie... On dit les empreintes vocales, mais la voix de Bowie, c'est un truc de dingue, et qui est elle-même évolutive d'après les personnages qu'il joue, d'après les chansons, d'après les univers qu'il raconte. Ça peut être la chose la plus caressante comme ça et douce, comme la chose la plus aiguë et même irritante. Enfin, c'est fou ce voilà, ce grand écart dans vocal.
Julien Bisson.
Oui, Heroes, c'est une chanson qu'il compose à Berlin, en imaginant ce couple qui va se s'embrasser. Il voit un couple qui s'embrasse, je crois que c'est Tony Visconti qui raconte que c'est lui-même.
Il y avait une aventure avec la choriste, voilà. Qui était mariée.
Qui est Tony Visconti? Tony Visconti, c'est son producteur historique, c'est vraiment celui qui l'a découvert en 67 et qui va l'accompagner pendant la plus grande partie de sa carrière. Et moi, ça me frappe, cette chanson, c'est la façon dont elle continue encore aujourd'hui, de façon très régulière, à être réutilisée, notamment dans des fictions pour les adolescents, et pour montrer comment elle devient une épiphanie chez les adolescents. Et c'est encore là, très récemment, dans l'épisode final de la série Stranger Things, il y a Heroes de Bowie qui est écouté, et dans les heures qui ont suivi, les écoutes de Heroes ont été multipliées, je crois, par 600%.
Mais vous savez que c'est la chanson qui a été le plus diffusée à sa mort. D'accord, en 2016, quand il est mort, on n'entendait que Heroes. Et ce qui est curieux, c'est que c'est une chanson qui n'a eu aucun succès en France quand elle est sortie.
En 1977. Oui. Vous disiez, Guimette ?
Je disais que c'était mon adolescence.
Let's Dance, Mishka, c'est sans doute la chanson la plus célèbre de David Bowie.
C'est celle qui a fait de lui une superstar, parce que je dirais qu'avant, il avait une réputation
branchée.
Faut relativiser. Ashes to Ashes, dont Paris Guillemette a été son vraiment premier grand tube grand public, mais il faut comprendre aussi que David Bowie, avant, ça passait dans des programmes du soir à la radio. Alors, bien sûr, le premier concert qu'il avait donné à Paris, c'était en 76, c'était un endroit épouvantable qui s'appelait le Pavillon de Paris, c'était les abattoirs de la Villette, enfin bon bref, et il y avait des chiens policiers, c'était horrible, et donc j'ai un ami qui y était, qui m'a raconté, c'était très frappant parce que c'était les débuts de sa période soul funk, et il avait ce personnage de ce qu'on appelait le Thin White Duke, le duc maigre et frêle, où il ressemblait à un acteur du cinéma muet avec son gilet, sa chemise blanche, ses cheveux gominés en arrière, et son air de vampire, justement, c'est toujours le contraste de Bowie, c'est-à-dire qu'il apparaissait comme une créature froide et glaciale, sinon glaçante, et avec des musiciens qui étaient un groupe multiracial. C'était des musiciens de funk, soul américain qui étaient bouillonnants. Et donc, il y avait des bruits industriels. Donc, c'est toujours un télescopage de choses qui, logiquement, ne devraient pas aller ensemble. Et pourtant, grâce à Bowie, elles cohabitent génialement.
Thibaut de Saint-Maurice, vous connaissez cette chanson quand même?
Oui,
absolument. Julien Bisson.
Ah ouais, j'ai une question pour Mishka. Est-ce qu'il est vrai que David Bowie détestait danser? Parce que Let's Dance, c'est un espèce d'hymne à la danse. Mais est-ce que c'est vrai qu'il détestait danser?
Je ne sais pas. Je sais que Bono est un très mauvais danseur. Vous dire.
Bono de U2, bons amis.
Ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est souvent le cas des chanteurs, effectivement.
Ouais. Allez, je vous ai demandé de choisir quelques-unes de vos chansons préférées. Mishka Assayas, il y a celle-là. Gin Ginny, sorti en 1972.
Oui, parce que je l'ai découvert à ce moment-là à la télévision, et je dois dire que j'ai eu un choc, mais il me gênait, mais c'est Bowie, il me gênait et il me fascinait, mais je savais pas si j'aimais, vous savez, mais souvent la musique c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on croit aimer parce qu'elles sont agréables sur le moment, un peu comme un chewing-gum, puis après il n'y a plus rien, et il y en a d'autres, vous avez du mal à rentrer dedans, c'est comme les livres, c'est comme pour beaucoup d'œuvres, et puis vous vous rendez compte que la difficulté que vous avez eu à pénétrer cet artiste, en fait, c'est ça qui fait sa richesse, et il me fascinait parce que oui, ça ressemblait, c'était du rock'n'roll, alors à ce moment-là, vous savez, les concerts, on y allait, on se couchait. Et à ce moment-là, là, il a permis à tout le monde de se lever. Ouais.
Julien Bisson, vous avez choisi. I laughed and shook his hand and made my way back home. Oui. The Man Who Sold The World.
Oui, The Man Who Sold The World, que moi j'ai découvert la chanson, comme je pense beaucoup d'adolescents des années 90, par Nirvana. C'est une reprise de Kurt Cobain dans le fameux album MTV Unplugged de Nirvana. Et en découvrant par la suite la version de David Bowie, s'il y a quelque chose de très frappant, parce que la version de Nirvana est très sèche, très... Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus orchestré et qui apporte une autre dimension à la chanson. C'est vraiment une chanson de quelqu'un qui rencontre un espèce de double, l'homme qui n'était pas là. Et il y a quelque chose de très fascinant, je trouve, dans cette chanson, dans le sens qu'elle nous dit et dans la... et on va retrouver ça dans beaucoup de chansons de Bowie, dans l'incapacité à rencontrer quelqu'un et la solitude face à l'absence de l'autre. Et dans The Man Who Sold the World, on est toujours en train de se demander c'est qui ce même Man Who Sold the World, mais en fait, en réalité, c'est de façon beaucoup plus large. C'est qui est l'autre et qui est cet absent que je n'arrive pas à rencontrer.
Golden Years, 1976.
Ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça l'illustre ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment le Bowie funky soul. C'est quelque chose qui était vraiment dans l'air du temps, effectivement. Les Stones aussi ont pris ce virage vers une musique plus funky. Mais lui, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas pris une ride. Moi, ça j'écoute ça. Et finalement, je suis comme Guillemette, je me lève et je danse mal, mais je danse.
Ah non, mais ça c'est un chef-d'œuvre absolu. Comment faire quelque chose d'aussi, je sais pas moi, d'aussi rond, sensuel, enfin complètement vital, enfin je sais pas.
Il va être bon musicien.
Ah oui, il faut dire que derrière ça balance bien. Oui. C'est incroyable ce morceau. Oh. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to fall.
Et notre réalisatrice Claire Destacan me disait au bureau tout à l'heure qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de pleurer en écoutant Life on Mars, sorti en 1971, et je vous ai senti très ému également, Guillemette Odissino.
Mais oui, mais enfin, vous savez, c'est monter en puissance, où on a l'impression que quelqu'un est en train de vous dire quelque chose d'essentiel. Vous savez, c'est pas si fréquent quand même, quand vous écoutez un chanteur et que vous vous dites, il est en train de me délivrer quelque chose. Il est en train de me parler de l'existence. Et là, mais c'est vraiment, mais en plus vraiment, enfin, sa manière dont sa voix part dans les aigus, oui. Ça vous attrape, ça.
Et remarque, pardon, de musicologue un peu cuistre, pardon, mais on sent l'importance de John Lennon,
ah oui,
dans sa façon,
oui,
de chanter, et aussi quand même d'un musicien immense dont on ne mesure pas l'importance et le génie en France, c'est Ray Davis, les Kinks. Ouais. Les Kinks, ça a été fondamental.
Totalement d'accord.
C'était son modèle, c'était le groupe qu'il voulait imiter, et je ne comprends pas pourquoi Ray Davis n'est pas... Bon, bref.
À l'occasion d'une autre émission. Oui. Julien Bisson.
Oui, bah moi, surtout, j'associe aussi cette chanson avec ce clip, hein, le clip où il est comme ça, avec ses yeux fardés de bleu sur un fond blanc, qui est vraiment là aussi quelque chose de très déchirant. C'est une chanson qui est terriblement actuelle, c'est l'histoire d'une jeune fille qui essaie de s'échapper de la réalité par l'écran, ouais. Donc il y a quelque chose quand même de vraiment qui continue encore à nous habiter aujourd'hui, oui. Et puis j'aime beaucoup aussi, je veux dire, la reprise qu'on a fait Seu Jorge, ce chanteur brésilien, dans le film de Wes Anderson, La vie aquatique, avec Steve Zissou, où il y a beaucoup de reprises de David Bowie par Seu Jorge, et là aussi il y a une façon de réécouter. Moi je trouve que les grands musiciens, c'est aussi ceux dans lesquels ils arrivent à donner par la suite des reprises assez incroyables.
Et pour votre humble serviteur, ma chanson préférée, c'est celle-là. Je vous raconte pas les frissons qui me parcourent en écoutant Ashes to Ashes, Mishka Sayar.
Non mais c'est sublime. Mais vous savez, quand j'ai fait ma série il y a 2 ans, j'ai réécouté tout. Et je dis, ah, il y a ça. Et puis il y a ça aussi. Ah, mais je l'avais oublié, celle-là. Et surtout, ça, je voudrais vraiment le dire pour ceux qui nous écoutent, c'est que les albums des années 2000, il y a Heathen en 2002 et Reality en 2003, et même The Next Day en 2003, qui sont merveilleux. Il y a des chansons mais qui passent jamais à la radio, mais qui sont... D'ailleurs, enfin, je vais les passer, moi. C'est un peu mon rôle. Et oui, voilà.
Allez, tout de suite, c'est la punchline philo, l'une des plus célèbres phrases de l'histoire de la pensée. Et c'est Dieu est mort ce matin, de ce bon vieux Nietzsche.
Philosophie, France Inter, comme le dit Descartes, c'est d'abord douter. douter de tout.
Grand bien vous fasse.
Et donc douter du doute. Et donc douter que philosopher, ce soit douter de tout.
Alors ce matin, Thibaut de Saint-Maurice, vous vous attaquez à l'une des punchlines les plus mal comprises de l'histoire de la philosophie, le fameux « Dieu est mort » du philosophe allemand Nietzsche.
Eh oui Ali, alors c'est un drôle de faire part de décès, surtout 15 jours après Noël, donc, ouais. Puisque les chrétiens célébraient la naissance de Jésus. Alors « Dieu est mort », c'est d'abord une phrase qui sonne comme une contradiction. Comment Dieu, hein, donc l'éternel, celui qui par définition ne connaît ni le temps ni la fin, pourrait-il mourir? C'est un paradoxe total, on n'imagine pas le créateur du monde hein, s'étendre doucement sur un lit de nuages métaphysiques. Alors retournons au texte. En 1882, dans son livre intitulé « Le gai savoir », Nietzsche met en scène un homme insensé qui court au marché en plein jour avec une lanterne allumée, criant « Je cherche Dieu ». Et devant les ricanements de la foule, il lâche cette bombe, donc Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. Alors ce n'est pas l'annonce d'un meurtre sanglant, c'est plutôt le constat d'un séisme métaphysique et historique. Pour Nietzsche, ce n'est pas Dieu qui a cessé d'exister, car pour lui, il n'a jamais été qu'une idée, mais c'est la croyance en Dieu qui est devenue non crédible. C'est la fin d'une époque où la religion servait de GPS pour tout le monde, parce que c'est la fin d'un monde où l'on avait besoin de croire en Dieu et en tout plein d'idées générales et éternelles qui faisaient nos valeurs.
Mais pourquoi Thibault, ce monde s'effondre-t-il? Pourquoi Dieu meurt-il?
Alors d'abord parce que Nietzsche a bien scié la branche quand même, il a bien pris le temps dans tout son travail philosophique de montrer que tout ce que nous considérions comme des valeurs, le bien, le mal, l'identité personnelle, la vérité, la justice, tout ça, ce ne sont finalement que des croyances produites par notre faiblesse. Et donc dire que Dieu est mort, c'est constater que les hommes ont inventé Dieu pour soutenir des croyances et des valeurs qui leur servaient de béquilles. Mais ensuite, si Nietzsche l'affirme à ce moment-là, à la fin du XIXe siècle, c'est aussi parce qu'il prend acte des progrès de la science, du durcissement des rapports de force économique et de l'émancipation des affirmations individuelles. Voilà, le monde change, il se désenchante et bascule dans une modernité qui finit par exclure Dieu et avec lui toutes les valeurs. Dieu est mort parce que le monde, comme il va, renonce à la valeur du sacré. Et si l'on va un peu plus loin, cette mort de Dieu est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour l'homme. Alors c'est d'abord une mauvaise nouvelle, au sens où avec la mort de Dieu, c'est la mort de toutes les valeurs, ce que Nietzsche appelle donc le nihilisme. Sans Dieu, plus rien n'a apparemment de sens. Il n'y a plus de vérité éternelle, plus de valeur morale universelle. Sans Dieu, nous errons, comme dit le texte, à travers un néant infini. C'est le vertige de l'absurde. Si rien n'est vrai de toute éternité, alors peut-être que rien ne vaut vraiment la peine. On risque de perdre le nord, de ne plus savoir qui nous sommes, ni pourquoi nous nous levons le matin. C'est la crise d'identité ultime pour l'humanité. Mais cette mort de Dieu est aussi... Voilà, c'est David Bowie.
C'est ce que j'allais dire.
Si j'ai bien compris l'émission.
C'est idéal.
Mais cette mort de Dieu, c'est aussi une bonne nouvelle. Parce qu'elle ouvre une nouvelle ère qui peut aussi être d'ailleurs une ère pour David Bowie. C'est l'ère de ce que Nietzsche appelle justement le gai savoir. La mort de Dieu, c'est l'ouverture de la cage. C'est le moment où l'homme va enfin pouvoir apprendre et comprendre qu'il n'y a rien d'autre à vivre et à espérer que la vie et sa puissance. La mort de Dieu est une libération, certes exigeante, mais qui invite chacun et chacune à créer une trajectoire singulière, à se jouer donc des identités, comme là encore Bowie. Nous pouvons enfin devenir les sculpteurs de nos propres valeurs et de notre propre vie, puisque personne n'a écrit le scénario d'avance. C'est à nous d'inventer, par exemple, la beauté, la justice, la liberté. Avec une limite tout de même, celle d'une humilité nouvelle, car il ne faudrait pas que la mort de Dieu nous autorise à nous prendre, nous, pour des dieux, au risque sinon de devoir tout recommencer.
Mishka Sayas.
Oui, et puis c'est une quête qui est extrêmement angoissante et douloureuse que justement David Bowie a incarné. Enfin, on a pu dire en effet de Bowie qu'il était nietzschéen, et ça, c'est pas exagéré.
Les punchlines philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster sur l'appli Radio France. N'oubliez pas ce soir à 20h, l'heure philo avec notre camarade Patricia Martin. Merci aux amis du vendredi, Thibaut et Guillemette. Merci beaucoup, Mishka Sayas. Very good trip, c'est du lundi au jeudi à 21h. Et demain, on retrouve évidemment votre masterclass David Bowie. Ce sera sur France Inter entre 20h et 22h. Merci Julien Bisson. La magnifique revue Légende consacrée à Bowie, c'est disponible en kiosque. Merci à Nathalie Romero et Joseph Pascal pour la programmation musique, la programmation avec la collaboration de Noé Brabant. Merci à Claire Destacan à la réalisation. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale. À la technique ce matin, Arnaud Caillé. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans Bel et Bien en compagnie d'Agathe Le Caron. Et lundi, quels sont les bonnes règles d'hygiène et de propreté à la maison? Êtes-vous complètement maniaque ou modérément adepte du ménage? Dites-nous tout dès lundi à 10h.